Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Y a-t-il des saints protestants ? Voilà une question bizarre. Les protestants n'aiment pas beaucoup la notion de sainteté, qui est celle communément admise de personnes parfaites qui intercèdent auprès de Dieu en notre nom. Et pourtant, c'est la revendication du théologien Jacques Ellul qui veut que nous soyons saints dans un livre posthume intitulé « Éthique de la sainteté ». Pour en parler, j'ai ici Frédéric Rognon, que l'on connaît déjà, qui est en plus le spécialiste de Jacques Ellul. Alors, bonjour Frédéric et bonjour à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez présenter d'abord Jacques Ellul ?
Alors, Jacques Ellul est un homme du XXe siècle. Il est mort il y a 30 ans, en 1994, et il est né en 1912. Donc, il a traversé tout le XXe siècle. Mais paradoxalement, c'est un homme qui avait une lucidité prémonitoire, je dirais, de telle sorte qu'il nous parle vraiment du présent. C'est un homme qui a analysé notre société, la société technicienne, la société marquée par les écrans, par l'image, par l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'il avait déjà prévu. Et il analyse cette société en tant que sociologue, en tant que juriste, en tant que historien des institutions. Il était professeur à l'Université de Bordeaux, mais aussi en tant que chrétien et en tant que théologien protestant. Et il a une double casquette, hein, un mouvement qui va toujours de la société vers la théologie, de la foi vers la technique. C'est un homme des frontières, un homme qui circule entre ces différentes disciplines et qui nous propose une analyse extrêmement puissante et extrêmement fine de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ça qui est assez fascinant chez un homme du XXe siècle, c'est qu'il avec sa vision prémonitoire, il examine et il analyse de façon très critique les réalités de notre temps.
Alors, ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Éthique de la sainteté », alors d'abord, on va définir ce qu'est l'éthique pour que les auditeurs puissent comprendre. C'est le deuxième tome d'une grosse trilogie qu'il voulait faire et il n'a pas eu le temps de faire le troisième tome, si j'ai bien compris. Mais là, donc, on parle du deuxième tome.
Voilà, il avait le projet d'une œuvre éthique tout à fait considérable, avec un premier étage, une sorte de fusée à trois étages, hein, un premier étage qui était l'éthique de la liberté, qu'il a eu le temps de publier. Alors, en trois volumes, hein, 73, 75 et 84, l'éthique de la liberté et les combats de la liberté. Le deuxième volume qui vient de paraître à titre posthume, comme vous l'avez dit, donc en 2024, qui s'appelle l'éthique de la sainteté, un énorme volume, hein, de plus de 900 pages. Il était prévu un troisième étage à la fusée qui devait s'appeler l'éthique de l'amour. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de la terminer. Il a ébauché cette troisième éthique, mais on n'aura jamais malheureusement cette troisième œuvre.
Alors, on va définir d'abord l'éthique parce que on entend parler beaucoup donc de l'éthique dans son premier volume, dans le deuxième volume qui vient d'être publié, dans le troisième qu'il aurait voulu publier. Mais qu'est-ce que c'est que l'éthique et notamment par rapport à la morale ?
Alors, Jacques Ellul distingue et même oppose éthique et morale, ce qu'on fait pas toujours, selon les auteurs, hein, on a des définitions différentes. Pour Jacques Ellul, la morale, c'est un ensemble de règles, d'interdictions, d'obligations, de devoirs, d'autorisations qui permettent de vivre ensemble. On a besoin d'une morale pour vivre ensemble. Mais selon lui, et c'est déjà une thèse très très originale, c'est qu'il n'y a pas de morale judéo-chrétienne, comme on le dit trop souvent, ou de morale évangélique, ou même pas de morale dans la Bible. Pour lui, la Bible n'est pas du tout un livre de morale, c'est plutôt un livre d'éthique. C'est-à-dire, c'est un livre qui appelle à la liberté, à un chemin de vie, Et donc, l'éthique, c'est la réflexion critique sur nos comportements, sur nos manières de vivre et sur notre fidélité au message évangélique, au message du Christ, qui est un appel à la liberté et à la sainteté et à l'amour, et pas du tout un ensemble de règles et de commandements. Nous avons besoin de commandements pour vivre en société, mais ces commandements sont tous sauf chrétiens, sont tous sauf évangéliques. C'est la nécessité qui nous oblige à avoir des règles. En revanche, la vie chrétienne, c'est une vie de liberté et de sainteté.
Alors, si on peut résumer, la morale, ça serait dans l'ordre du civique, de la vie ensemble, oui. Quelle que soit la société, alors que l'éthique aurait une fonction religieuse, enfin de message, en tout cas par rapport à l'Évangile.
Alors, plutôt que religieux, on dirait avec Jacques Ellul plutôt existentiel, c'est-à-dire ce qui touche vraiment au sens de notre vie, et si nous sommes chrétiens, eh bien à cette fidélité au Christ, à ce chemin de vie que le Christ nous propose.
D'accord, donc l'éthique nous donne déjà la définition de quelque chose qui va être en phase avec l'Évangile, avec le message du Christ. Et alors, le vif du sujet, la sainteté. Alors, la sainteté, c'est compliqué parce que quand on pense sainteté, bien, on pense ce que je viens de dire, c'est-à-dire un saint, c'est une personne parfaite qui est auprès de Dieu, qui éventuellement intercède pour nous, dans l'optique catholique. Hein. Mais dans l'optique protestante, c'est pas très très bien défini ce qu'est un saint. Alors, on pourrait peut-être définir ce que le saint n'est pas au départ.
Alors précisément, il n'est pas ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que pour Jacques Ellul s'inscrit en faux contre cette définition de la sainteté comme perfection morale, comme conduite irréprochable. Hein. On peut penser voilà à Mère Teresa ou à Sœur Emmanuelle, voilà des figures qui sont des modèles de vie et qui des figures humaines et qui eh bien qu'on essaye de peut-être d'imiter petitement, mais qu'on essaye donc de prendre comme exemple. Alors que Jacques Ellul s'inscrit en faux contre cela au nom de la définition proprement biblique de la sainteté. Pour lui, la sainteté, ce n'est pas du tout l'irréprochabilité morale, et on peut très bien être saint et être pécheur et continuer à vivre avec nos défauts, avec nos manques, avec nos limites. Mais au sens biblique, au sens d'abord de Kadosh en hébreu dans l'Ancien Testament, et puis Agios ensuite en grec pour le Nouveau Testament, quand on parle des saints dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres de Paul, il s'agit des membres de l'Église, hein, les saints qui sont à Jérusalem ou les saints qui sont à Antioche, ce sont ceux qui sont mis à part pour un service. C'est ça le sens de sainteté déjà dans l'Ancien Testament. Kadosh, c'est le fait d'être mis à part des autres, en vue d'une mission, en vue d'une vocation, en vue d'un service, non pas pour ses propres intérêts, mais pour le service des frères et des sœurs. Alors, il faut tout de suite préciser que mis à part, ça ne veut pas du tout dire s'isoler, ça ne veut pas du tout dire vivre à l'écart du monde. Il faut vivre au cœur du monde. Il s'agit de vivre dans le monde, au cœur de la foule, au cœur des cités, mais à contre-courant. Donc, mis à part au sens de mise à contre-courant, de façon non conforme aux valeurs et aux tendances de la société. Et le deuxième...
Alors, on va revenir sur la séparation, sur le kadosh. On est d'abord dans ce que le saint n'est pas, donc le saint n'est pas parfait. Ouais. Il n'a pas vocation, d'ailleurs, à être parfait. Et même la réforme s'est trompée parce que on assimile souvent la réforme à l'austérité et donc Jacques Ellul ne voit pas la sainteté non plus dans l'austérité.
Alors la sainteté peut conduire à des choix de vie mais qui peuvent se présenter comme une recherche de simplicité de vie certainement. Bon, Jacques Ellul est un précurseur de l'écologie, je l'ai pas dit tout à l'heure. Effectivement, la sobriété, la simplicité sinon l'austérité. L'austérité est un terme qui a un peu connoté, mais disons la vie simple est tout à fait possible dans le cadre de la sainteté. Mais il s'agit pas de se croire, parfait, de se croire meilleur que les autres. Il s'agit plutôt de répondre à un appel et un appel de Dieu et de s'engager sur un chemin sur lequel Dieu nous appelle. C'est ça la sainteté, c'est essayer de discerner ce à quoi Dieu nous appelle et donc le suivre le Christ sur ce chemin-là, avec nos défauts, avec nos limites, mais en nous appuyant sur un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui nous relève quand nous trébuchons.
Est-ce que Jacques Ellul s'insurge aussi contre l'image de la sainteté qui voudrait dire que le saint ignore totalement les questions sociales et politiques? Pour Jacques Ellul, la sainteté n'implique pas du tout de se séparer des questions, d'être en dehors des questions sociales et politiques.
Certainement, vous avez raison. Jacques Ellul, au contraire, invite les chrétiens à s'intéresser et à s'engager dans la cité, mais pas forcément là où on les attend, de la façon dont on attend l'Église, par exemple. Hein, il dit ceci, il dit l'Église doit être là où on ne l'attend pas et ne doit pas être là où on l'attend. Donc, il s'agit de s'engager, mais de s'engager et donc de prendre à bras le corps les questions sociales, politiques, économiques, mais d'une façon non conforme, d'une façon différente de ce qui est la norme, disons, de la norme sociale. Les chrétiens sont avant tout des anticonformistes ou des personnes non conformes.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui rebute fortement Jacques Ellul, c'est la notion du sacré qu'on confond parfois avec sainteté. Alors, je voudrais préciser qu'on a déjà évoqué ce thème dans un thème et anathème avec Michel Fréchet. On avait parlé de la sainteté et du sacré, mais on avait surtout évoqué le sacré. On avait très peu évoqué la sainteté. Donc là, c'est aussi l'occasion de mettre plus l'accent sur la sainteté. Alors, qu'est-ce que Jacques Ellul reproche au sacré ?
Bien, le sacré, c'est une initiative humaine. C'est ça le fond de l'argument de Jacques Ellul, c'est que ce sont les humains qui sacralisent. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il n'est pas question de sacré dans la vie chrétienne. Il est question de sainteté, et ce n'est pas du tout la même chose. Les humains tendent à sacraliser des lieux, des objets, des personnes, c'est-à-dire à distinguer ce qui est profane de ce qui est sacré, donc de faire une délimitation, mais qui est proprement humaine et qui est du coup une emprise, une prise de pouvoir sur les lieux, les personnes et les objets. C'est-à-dire que les humains, sans du tout y être appelés par Dieu, eh bien, délimitent des espaces, font des distinctions entre les personnes. Alors que la sainteté, comme je disais tout à l'heure, n'implique absolument pas une distinction sacrée-profane. Il s'agit d'être au cœur du monde et non pas dans un espace distinct. Il s'agit de répondre à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de la sainteté, Dieu qui est saint et qui nous appelle à être comme lui. Et donc, c'est cette grande différence entre l'initiative humaine et l'initiative divine. Donc, les chrétiens sont appelés non pas à créer du sacré, mais à répondre à l'appel de Dieu à être saint. Et ce faisant, les chrétiens sont appelés à désacraliser. Parce que pour Jacques Ellul, sacré et saint sont opposés. C'est pas seulement deux choses différentes, c'est pas deux concepts différents, c'est deux mouvements inverses. Et tout ce que nous sacralisons, alors on peut penser à la politique, à l'argent, à la technique, au sport, tout ce que nous sacralisons, eh bien, les chrétiens sont appelés à le désacraliser, non pas à le faire disparaître, mais à le rendre simple, à lui retirer son aura de sacralité. Et donc, la sainteté suppose une désacralisation ou une profanation.
Et elle vient de Dieu. C'est Dieu qui instaure la sainteté, ce n'est pas l'homme qui, de son mouvement, devient saint.
Tout à fait. C'est-à-dire que la sainteté consiste à répondre à un appel de Dieu. Donc, à discerner cet appel, à quoi Dieu nous appelle-t-il, et à le suivre sur le chemin qu'il nous trace.
Alors, on va venir justement à cette sainteté, puisque c'est Dieu qui appelle à la sainteté. Et alors là, on arrive au titre du chapitre 2 de Jacques Ellul, qui dit « Dieu seul est saint ». Alors, ça montre ce titre, quand je l'ai vu, Dieu seul est saint, je me suis dit, bon, ben, c'est pas gagné de devenir saint. S'il y a que Dieu qui est saint, comment on fait? Parce que j'ai lu les 900 pages, et puis je sais toujours pas vraiment si je peux devenir sainte si Dieu ne m'appelle pas. En fait, c'est lui qui a l'initiative.
Eh oui, mais justement, ça demande une très grande humilité, ça demande un renoncement ou en tout cas une dépréoccupation de soi, parce que ce n'est pas à nous de prendre l'initiative de la sainteté, c'est à nous de discerner ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu seul est saint, ça signifie qu'il est le seul à être d'abord saint, et c'est pour cela que nous sommes appelés ensuite à devenir saint, ensuite à le suivre à devenir davantage image de Dieu, c'est-à-dire à le suivre sur le chemin qu'il nous propose. Donc, nous ne sommes pas saints d'emblée. La sainteté est un mouvement. On va parler de sanctification plutôt que de sainteté. Et donc, nous sommes ainsi appelés à nous dépréoccuper de nous pour pouvoir nous engager sur un chemin de sanctification.
Alors, ce que dit Jacques Ellul aussi, qui est peut-être un peu compliqué, mais on va expliquer, c'est que la sainteté, ce n'est pas une réalité ontologique, c'est pas une réalité essentielle de l'homme, mais c'est un existentiel, c'est-à-dire c'est une façon de vivre existentielle, donc de vivre dans l'existence. C'est ça alors, la sainteté, c'est un existentiel. Alors comment le trouver, cet existentiel? Comment le vivre?
Ah, effectivement, nous ne sommes pas saints de nature, par essence, de façon ontologique, donc dans notre être même. C'est un mouvement, c'est une mise en marche, c'est une mise en route qui suppose de se déprendre d'un certain nombre de conditionnements. Nous sommes tous conditionnés, nous sommes tous aliénés, on va dire, par des forces, par des déterminations sociologiques, psychologiques, par des discours qui colonisent notre imagination et qui ont une emprise sur nous. Donc, il s'agit de se laisser déprendre par le Christ, qui nous appelle à la liberté et à la sainteté. Et il s'agit donc d'une sainteté existentielle, comme vous dites, donc un mouvement de mise en route et un chemin à suivre à partir d'un donné qui est plutôt un donné de détermination et d'aliénation pour nous en dégager et marcher vers un objectif qui est le royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Voilà, c'est pour Jacques Ellul, il s'agit essentiellement du royaume des cieux. Le royaume des cieux est le royaume dans lequel marchent les saints qui suivent l'appel du Christ.
Et alors, ça veut dire qu'on peut trébucher, qu'on peut retomber, qu'on peut avoir l'impression de ne jamais y arriver, mais être quand même dans ce mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui s'estiment incapables de devenir saints dans cette perspective?
Alors, il n'y a pas à se sentir incapable de devenir saint, parce que Dieu ne met jamais sur nos épaules un joug trop lourd, ne met jamais la barre trop haute. Il ne s'agit pas d'une perfection morale, il ne s'agit pas d'une vie absolument irréprochable, il s'agit d'un chemin. Et donc, Dieu est toujours là pour nous relever quand nous trébuchons, quand nous faisons des erreurs, l'échec n'est pas du tout rédhibitoire, l'échec n'est pas du tout un empêchement à la sainteté. Nous traversons des échecs, nous traversons des épreuves, nous faisons l'expérience de nos limites, Mais si nous restons fidèles, hein, c'est une question de fidélité, si nous restons fidèles au Christ, si nous continuons à marcher sur le chemin qu'il nous propose, eh bien, nous pouvons compter sur lui pour pardonner nos écarts, pour nous relever à chaque échec et pour nous porter aussi. C'est aussi se laisser porter lorsque nous sentons trop faibles. Eh bien, c'est de nous en remettre à lui pour nous tenir et pour nous porter. Donc, c'est pas du tout une performance ou une vision de surenchère, je dirais, de surenchère morale vis-à-vis de soi, comme si on pouvait toujours mettre la barre plus haut pour essayer d'être toujours plus proche du sommet. Il s'agit plutôt de se laisser tenir par Dieu, de se laisser porter par Dieu, c'est-à-dire de lui faire totalement confiance pour marcher sur ce chemin. S'il nous trace ce chemin et s'il nous porte, c'est bien qu'il considère que nous en sommes capables.
Alors, nous allons faire une pause musicale et puis nous nous retrouvons ensuite. Je voudrais revenir maintenant sur position sacrée et sainteté. L'épisode dans l'évangile, je ne sais plus dans quel évangile c'est, je ne l'ai pas noté, la femme qui touche le vêtement de Jésus. elle touche le vêtement de Jésus et elle est guérie. Donc, on peut dire qu'il y a du sacré là-dedans, puisqu'il y a un geste magique, le vêtement. Et pourtant, Jacques Ellul dit que c'est la sainteté qui apparaît et que ce n'est pas le sacré. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, parce que c'est un peu contradictoire d'apparence?
Alors, ça peut paraître contradictoire. En fait, c'est assez logique si on regarde l'intention de la femme, l'intention des personnages. Son intention, ce n'est pas du tout d'entrer dans une sphère sacrée, c'est une intention de confiance. Pourquoi fait-elle ça? Bien parce qu'elle s'en remet totalement à Jésus, contre tous les conditionnements, les regards, les jugements qui ne manquent pas, et à lâcher prise, comme on dit aujourd'hui, vraiment une confiance totale dans celui qui va permettre de la relever. Et donc là, nous ne sommes pas dans une perspective de sacralité ou de sacralisation, mais de sainteté, parce que ce n'est pas une perspective humaine qui va élaborer un système proprement humain. C'est une relation de confiance. On est dans l'existentiel, hein, c'est-à-dire dans ce qui touche au cœur de la personne, dans ses réalités ultimes, le fait de remettre sa vie à quelqu'un par-delà tous les jugements et tous les conditionnements qui peuvent qui pourraient l'empêcher, qui pourraient la freiner, qui pourraient la dissuader. C'est précisément la marche proprement de la sainteté.
Alors, il y a un sujet qui est un peu différent dans le livre, mais Jacques Ellul parle aussi de l'obsession de l'unité. Et alors, il dit que l'esprit humain ne serait satisfait que s'il pouvait effectuer la synthèse de tout. Alors, c'est très protestant, ça, de se méfier de l'unité. Pourquoi Jacques Ellul a cette position? Et d'ailleurs, pourquoi il en parle dans ce livre? Ça n'a pas de rapport avec la sainteté, l'unité, si?
Précisément, ça a un rapport d'opposition. C'est-à-dire que l'unité, l'obsession de l'uniformité, hein, l'unité dans l'uniformité, l'unité comme une synthèse qui conforme, qui rend tout conforme, c'est la prétention humaine. C'est une prétention au pouvoir, à la maîtrise, au contrôle, à l'emprise. Et on voit des mouvements, que ce soit des mouvements politiques, des mouvements religieux, des courants de pensée qui cherchent à tout unifier et à rendre tout uniforme. Alors que la sainteté, donc on a dit tout à l'heure que la sainteté conditionne l'amour, hein, la liberté, la sainteté et l'amour, ce sont les trois étapes de l'œuvre éthique de Jacques Ellul. Eh bien, la sainteté confine à l'amour, c'est-à-dire que ce qui fait lien, ce n'est pas l'uniformité, ce qui fait lien, ce n'est pas un pouvoir qui s'impose à tous de la même façon. Si nous marchons sur un chemin de sainteté, cela nous conduit au service et donc à l'amour du prochain. Et l'amour qui respecte les différences, l'amour, c'est ce qui fait des ponts, ce qui fait des liens avec les différences, non pas contre les différences, non pas en évacuant les différences, mais en maintenant, en respectant les différences. Donc, il n'y a pas une obsession d'unité dans la sainteté, il y a au contraire un respect de la singularité de chacun, de l'unicité radicale de ce qui est absolument irréductible dans le mystère de chacun. Chacun a sa voie de sainteté, hein. Il n'y a pas deux chrétiens qui sont appelés à exactement la même chose. Chacun suit sa voie de sainteté. Et comme c'est une voie de service et d'amour, eh bien, il s'agit de vivre ensemble, dans une relation d'amour, qui se démarque de toute emprise, de toute prise de pouvoir. C'est le contraire de la puissance, du pouvoir et de l'emprise. C'est ça l'amour. On aurait aimé que Jacques Ellul poursuive avec son éthique de l'amour. Malheureusement, on n'aura pas, mais on a au moins cette idée que l'amour repose sur la sainteté et sur la liberté, et donc sur l'acceptation des différences irréductibles de chaque être humain.
Et alors, comment Dieu est-il saint ? On a parlé tout à l'heure donc de kadosh, donc de séparé. Est-ce que ça veut dire que Dieu est une perfection lui-même, une perfection statique ? Est-ce qu'il est d'une façon immobile ? Je vais y arriver comme ça. D'une façon immobile, est-ce qu'il est parfait ? Et comment se manifeste la sainteté de Dieu ?
Eh bien, puisqu'on a distingué radicalement sainteté et perfection, hein, la sainteté n'est pas une perfection morale. La sainteté de Dieu, c'est que Dieu à lui-même se donne à lui-même un chemin de vie. Dieu est une personne divine en mouvement qui vient toujours rencontrer l'homme. La sainteté de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui s'abaisse vers l'homme et qui vient toujours à sa rencontre. C'est ça la vocation de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Dieu se donne à lui-même cette vocation d'être toujours à la rencontre de l'homme. Et donc, les êtres humains qui sont à l'image de Dieu et qui sont par la sainteté ou la sanctification appelés à devenir toujours plus image de Dieu, eh bien, sont appelés à être image de Dieu comme un être aimant qui aime toujours davantage. Donc, la sainteté des hommes ou la sanctification des hommes, elle découle de la sainteté de Dieu et elle conduit à devenir toujours plus image de Dieu.
Mais elle n'est pas morale, donc on l'a bien compris, et elle n'est pas non plus religieuse, d'après Jacques Ellul. Alors, il y a quand même un paradoxe de parler de sainteté qui n'est pas religieuse. Est-ce que c'est pas un peu antinomique d'associer ces deux mots ?
Eh bien, pour Jacques Ellul, la religion est une question de définition, hein, mais pour Jacques Ellul, la religion est un mouvement d'initiative humaine. La religion, c'est ce qui, de la part des êtres humains, construit des images de Dieu, construit des institutions, mais à partir des intérêts des êtres humains. Les êtres humains se représentent Dieu et donc se construisent un Dieu à leur image, ou en tout cas à l'image de leurs propres intérêts. Alors que la sainteté, on l'a bien compris, est un mouvement à l'initiative de Dieu. Dieu se révèle dans l'Écriture, hein, c'est donc le mouvement de la révélation de Dieu qui se fait connaître aux hommes de sa propre initiative et qui appelle les hommes à le suivre. Donc, ce sont quasiment deux mouvements inverses. La religion, c'est, si on peut le dire d'une formule, hein, c'est l'élévation de l'homme vers Dieu. Dieu est une image que l'homme cherche à atteindre à partir de ses propres intérêts. Et la révélation, c'est le mouvement inverse. Dieu se fait connaître aux hommes tel qu'il est. Et donc, si on veut connaître Dieu, ben il faut méditer l'Écriture plutôt que de se tourner vers la religion. Il faut essayer de voir comment Dieu se fait connaître lui-même. Et la sainteté, c'est donc, ou la sanctification, c'est ce mouvement auquel l'homme est appelé à partir de la révélation de Dieu et non pas à partir de la religion.
Et l'homme donc devient, se sépare, mais en devenant saint, il est séparé, mais il se sépare de quoi au juste ?
Alors, il se sépare de plusieurs choses. D'abord, il se sépare des autres hommes, mais encore une fois, non pas en s'isolant et non pas non plus en se croyant supérieur. Hein. La sainteté n'est pas du tout une condescendance, un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres. Il s'agit de se séparer au sens de ne pas entrer dans les voies que la société nous propose comme étant celles qui valent la peine d'être tentées, toutes les valeurs, les idoles, hein, de notre temps. Donc, il s'agit de se séparer des idoles de notre temps, de désacraliser ce qui a été sacralisé, Donc, il s'agit donc de se séparer des conformismes de notre société, encore une fois, sans s'isoler, en restant au cœur même du monde, au cœur de la cité, au cœur de notre travail, de notre vie active et de nos occupations. Mais
il n'est pas question de devenir, excusez-moi, il n'est pas question de devenir ermite alors.
Pas du tout, hein, ni dans une tour d'ivoire, ni dans une grotte. Hein, il s'agit d'être au cœur du monde et de vivre parmi les hommes, mais à contre-courant. Et puis, il y a un deuxième point qui est fondamental, c'est que se séparer, c'est aussi se séparer de soi-même. Ça, c'est surtout dans l'éthique de la liberté, dans le précédent étage de la fusée éthique de Jacques Ellul, il est question d'une libération à l'égard de soi-même. C'est-à-dire que pour être sain, il s'agit de se dépréoccuper de soi, de se libérer de ses propres tendances personnelles qui peuvent nous conduire loin de Dieu. Il s'agit donc de recevoir l'appel de Dieu sans y mettre le filtre de notre propre humanité. Et donc se séparer, c'est aussi se séparer de soi-même, paradoxalement pour se retrouver soi-même tel que Dieu veut que nous soyons.
Merci Frédéric Rognon de nous avoir introduit dans l'œuvre de Jacques Ellul. Alors pour répondre à ma question du début, y a-t-il des saints protestants ? Je retiens que nous sommes tous appelés à la sainteté si nous acceptons de suivre Dieu dans notre chemin personnel. Je rappelle les références du livre « Éthique de la sainteté » de Jacques Ellul, une coédition Olivetan, Élabore et Fides. Je vous indique aussi le livre de Frédéric Rognon qui s'intitule « Jacques Ellul, exister, c'est résister ». Paru chez Ampelos. Maintenant, je remercie nos auditeurs. Je leur rappelle qu'ils peuvent réagir au mail suivant un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.